Bonsoir Marie.
Arnaud, bonsoir. À l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Starobinski et de la sortie au seuil d'un ouvrage posthume, Le corps et ses raisons, nous sommes avec Martin Rueff. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes traducteur, poète, professeur de littérature et d'histoire des idées à l'Université de Genève. Jean Starobinski, lui, grand théoricien des idées, critique littéraire, était aussi médecin. Alors là, je fais volontiers le parallèle avec Tchekhov au moment où je vous dis ça. Est-ce que cette attention au corps est en soi une caractéristique de sa pensée ?
Oui, oui, vous avez raison. Jean Starobinski a été à la fois médecin et homme de lettres, c'est-à-dire qu'il a vraiment accompli les deux carrières que son père, lui, n'avait pas pu accomplir ensemble, puisque son père avait dû renoncer dans sa jeunesse aux lettres pour la médecine, pour des raisons financières, alors que Jean Starobinski, fils, donc le fils, a été à la fois un médecin au sens plein du terme, et par ailleurs, il a été le grand historien de la littérature, des idées, des arts et des formes que l'on connaît, le spécialiste de Rousseau, de Diderot. Alors oui, si on voulait vraiment caractériser sa pensée, ce qu'il distingue d'ailleurs d'autres critiques du XXe siècle, c'est qu'il a toujours essayé d'articuler l'expérience, l'expérience de l'auteur souvent, ou du peintre, ou du musicien même, et des formes. C'est ça qui l'obsédait. Je sais pas, quand il parle de Mozart, il va chercher l'expérience de Mozart. Quand il parle de Chardin, il va chercher l'expérience de Chardin. Et c'est si vrai d'ailleurs que dans ce livre d'histoire des idées qui s'appelle L'invention de la liberté, il dit, voilà, je vais essayer de trouver quelle a été l'expérience de la liberté des hommes et des femmes du XVIIIe siècle, et il le fait à travers des œuvres d'art. Alors, l'expérience, c'est d'abord l'expérience du corps, c'est sûr. Et quand il parle de Rousseau, il parle de la marche de Rousseau, il parle des températures que devait affronter. Il était obsédé par la question des températures, et dans un livre qu'on vient de publier, là, Le corps et ses raisons, qui est son premier livre posthume, et qui est un livre qui rassemble des essais de médecine, il y a un essai absolument merveilleux sur la question des températures dans Madame Bovary, et il est tout à fait passionné par le fait que Madame Bovary, c'est une jeune fille, puis une femme, qui a toujours ou trop chaud ou trop froid. Et donc, il évoque cette scène magnifique, qui a très forte connotation érotique, quand Charles revient voir Emma, et elle est toute jeune fille, elle a chaud dans sa cuisine, et elle pose ses mains sur la paume des chenets de fer de la cheminée, qui sont plus frais. Voilà, donc il avait un goût du corps, une attention au corps, et dans sa manière d'interpréter les œuvres, la question du corps est centrale. Et d'ailleurs, ce livre, Le corps et ses raisons, il naît d'abord comme une interrogation sur les synesthésies, c'est-à-dire sur le fait d'avoir des sensations corporelles. Et il voulait d'ailleurs, il le dit, j'aurais voulu, il dit ça dans les années 80, j'aimerais faire un livre sur les synesthésies de Sapho à Beckett. Bon, alors, il a tenu un cours sur Beckett.
Est-ce qu'il a, selon vous, donné une autre définition, une définition personnelle de ce qu'est la critique littéraire ?
Ah oui, 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 vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. On peut le dire de manière négative et de manière positive. C'est-à-dire, de manière négative, Jean Starobinski a toujours refusé de mettre les questions théoriques, ou ce qu'il appelait souvent avec un peu de mépris ou de dédain, la méthodologie, au second plan. Il a toujours refusé de la mettre au premier plan, je veux dire. Il a toujours mis ça au second plan. Et dans le grand livre de théorie critique, qui est le livre qu'il a accompagné pendant pratiquement 30 ans, qui s'appelle « La relation critique », qui est un livre qu'il a écrit, réécrit, publié, republié, il montre que pour lui, la critique ne se conçoit pas sans une attention extrême aux œuvres. Et il n'est pas du tout obsédé par les protocoles de la critique ou les protocoles méthodologiques, comme aura pu l'être un Barthes ou un Genette. C'est pas un poéticien. Pour lui, la question, si vous voulez, de trouver des catégories qui transcendent, pour parler comme le premier Genette, qui transcendent les œuvres, ne l'intéresse pas. Lui, sa critique, elle est une forme d'attention. C'est d'abord ça. Et on peut très bien imaginer une interprétation de cette forme d'attention. Pour moi, elle est aussi liée à sa propre histoire. Quelqu'un qui a vécu comme la pire des horreurs, la Seconde Guerre mondiale, il a 20 ans, et la destruction des Juifs d'Europe et la destruction des signes de la culture juive aura été pour lui une expérience absolument épouvantable, comme pour tant d'autres. Et du coup, c'est un homme de l'œuvre, c'est un homme de l'attention à l'œuvre. Il est fasciné par ces traces des humains, la manière dont les humains capturent leur expérience dans des œuvres, et il fait attention aux œuvres comme il faut faire attention aux personnes. Alors sa théorie critique, il la définit comme une relation Alors là, je vais être technique, mais juste 30 secondes, rassurez-vous. Lui, ce qu'il dit avoir inventé, c'est la notion de double cercle herméneutique. Alors, je prends un exemple tout de suite pour ne pas effrayer ou lasser nos auditrices et nos auditeurs. Quand je veux interpréter, je ne sais pas, je vais voir un spectacle vivant, je tombe sur un tableau, je tombe sur un morceau de musique, eh bien, évidemment, le premier mouvement, c'est le mouvement d'élan qui me porte vers cette œuvre, et c'est le mouvement qu'on qualifie généralement de mouvement attentionnel, ou ça me plaît pas, je suis attiré, je suis pas attiré, etc. Ce mouvement, évidemment, il me ramène immanquablement à moi, puisque c'est moi qui suis en jeu dans le fait que ça me plaît, etc. Et donc ça, c'est le premier cercle herméneutique, c'est-à-dire que je mets dans l'œuvre une partie de moi-même, mais très souvent, malheureusement, la critique s'arrête là, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qu'elle trouve dans l'œuvre, c'est elle-même. Bon. Et lui, il dit qu'il faut un deuxième cercle, et ce deuxième cercle, hein, ce qu'il appelle le cercle de l'objectivité, qu'on peut d'ailleurs, en y pensant, interpréter comme le cercle de l'obstacle, hein, si on pense à son livre de 57, La transparence et l'obstacle. Et l'obstacle, justement, c'est ce qui n'est pas moi. C'est ce qui fait, par exemple, que, je sais pas, tel élément dans une pièce de théâtre me gêne, tel élément dans une sonate me gêne. Et ce qui fait obstacle, justement, c'est là où la tension doit être la plus grande. Et donc, si vous voulez, c'est un mouvement, je dirais, d'empathie, évidemment, puisqu'on est attiré par des œuvres. Il ne faut surtout pas nier ça, et au contraire, il faut le glorifier, parce que c'est la manière dont notre sensibilité se cultive et se partage aussi. Mais il y a un autre mouvement, qui est le mouvement de la mise à distance. Hein, et Starobinsky, c'est quelqu'un qui définit la relation critique comme empathie et mise à distance. Et aujourd'hui, alors qu'on est tellement obsédé par les questions d'identité et qu'on est persuadé que la meilleure manière de régler la question de l'identité, c'est l'empathie, je pense que Starobinsky est utile pour dire, mais non, pour comprendre les autres, il faut d'abord comprendre que leur altérité fait obstacle à leur compréhension.
Et pour conclure, une question un peu générale, mais je suis obligée de vous la poser, en quoi pensez-vous qu'il a renouvelé notre regard sur le XVIIIe siècle ?
Oui, alors ça, c'est évidemment une question centrale, et c'est même un peu une question coquine, si j'ose dire, parce que notre actualité politique, sociale, est liée aux Lumières. Hein, parce qu'aujourd'hui, combien de mouvements, justement, d'identité, ou religieux, ou sexuels, ou même sociaux, hein, communautaires, se réclament de la lutte contre l'universalité des Lumières. Et on réduit souvent les Lumières à une espèce de fantoche, un dôme de paille qui serait la défense d'une universalité abstraite, hein, le sujet de droit. Et ce que Starobinsky aura permis de comprendre, c'est que les Lumières, bien sûr, c'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est Diderot, c'est Kant, évidemment, mais les Lumières, c'est aussi Chardin, Greuze, Mozart, c'est-à-dire c'est un siècle éblouissant, hein, d'ouverture à la sensibilité singulière. Son premier livre célèbre, hein, le Montesquieu est de 53, et il le dit, hein, c'est vraiment, pour lui, Montesquieu est un maître, et un maître de modération, mais c'est aussi le siècle des enchanteresses, hein, puisqu'il avait une passion pour les personnages féminins d'opéra. Et donc, c'est un 18e, je dirais, beaucoup plus riche, et c'est le siècle de la raison élargie, et pas du tout de la raison technique, ou, comme on dit souvent, la raison instrumentale, hein, celle que Adorno et Horkheimer condamnent dans le fameux livre sur la dialectique des Lumières. Voilà, c'est le 18e de Starobinsky, c'est un 18e qui continue à nous parler, parce que c'est à la fois le siècle de l'intelligibilité, de la rationalité, et le siècle de la sensibilité.
Merci, Martin Rueff.
Et merci à vous, Marie Sorbier.